Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
État de droit et ses exigences, ses contradictions. C'est le thème de votre émission qui fait la promotion de vos droits et devoirs.
Quelles sont les exigences et contraintes d'un état de droit? Quelles contradictions entre la théorie et la pratique de l'état de droit en République démocratique du Congo? Quelles solutions peut-on préconiser pour promouvoir un véritable état de droit en RDC? Voilà la problématique à laquelle s'intéresse Droit et Citoyenneté aujourd'hui, réalisée par Jeff Ngoy et co-présentée avec Vanessa Kongolo sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente écoute à tous. L'état des droits et ses exigences, nous démarrons notre magazine avec les contradictions d'un état des droits à travers cette déclaration de Human Rights Watch sur la répression de l'opposition en RDC à la veille des élections. Thomas Fessy est le chercheur principal de cette organisation internationale de défense des droits de l'homme sur la RDC. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
On observe depuis le mois de mai une vague d'arrestations et de restrictions frappant l'opposition. Restrictions des droits à la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique et de circulation. Autrement dit, des libertés fondamentales. C'est une tendance que les autorités devraient rapidement inverser car elle risque d'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. Des manifestations ont été soit violemment réprimées, soit interdites ou empêchées. Or, tous les partis politiques devraient pouvoir fonctionner pleinement et organiser leur rassemblement sans faire face à de tels obstacles, surtout à la veille de la campagne électorale officielle. Moïse Katumbi n'a pas pu réaliser sa tournée dans la province du Congo central, par exemple. Son conseiller principal, Salomon Kalonda, est aux arrêts depuis fin mai. Il est finalement inculpé pour trahison. Des perquisitions musclées dans son dossier, manifestement abusives. La question de motivation politique se pose dans de tels cas. Franck Diongo a lui aussi été arrêté, détenu plusieurs semaines, puis relâché. Et un mois après le meurtre de Chérubin Okende, les circonstances restent à élucider.
Quelles sont les exigences et contraintes d'un état de droit, Thomas Fessy?
Bien, l'état de droit, c'est un principe de gouvernance. Et par ce principe, tous les citoyens, mais aussi les institutions, les entités publiques et privées, et l'État aussi, répondent de l'observation des lois qui doivent être appliquées à tous de la même manière. Et elles doivent être administrées de manière indépendante et selon les normes internationales en matière des droits de l'homme. En gros, cela veut dire que nul n'est au-dessus des lois et que tout le monde, quelle que soit sa place dans la société, est redevable de ses actions et devra, au besoin, rendre des comptes devant la justice. Pour cela, eh bien, il faut des institutions fortes qui soient transparentes et efficaces et gouvernées par le principe de la légalité. Si on opère en dehors de la légalité, on se met dans un système parallèle et par conséquent dans le sens contraire de l'intérêt général. Il faut également un pouvoir judiciaire solide, c'est-à-dire indépendant du politique, impartial et efficace. Car sinon, les abus de pouvoir sont trop faciles et deviennent la norme. Dans les pays qui se reconstruisent au sortir de conflits également, l'état de droit permet la consolidation de la paix. On ne le dit jamais assez, il ne peut y avoir de paix durable sans justice. Rendre des comptes pour les crimes est essentiel. Obtenir des réparations aussi pour les différents, pour que les différents trouve une porte de sortie équitable vers une paix que l'on puisse ensuite préserver. L'impunité continuelle, en fait, est à l'opposé de ce que l'état de droit entend restaurer. L'état de droit régit en quelque sorte de manière légitime le vivre ensemble, car sinon c'est la loi du plus fort avec un individu ou un groupe d'individus qui s'accapare le système, décide selon leurs intérêts et utilise les institutions à cette fin plutôt que de se préoccuper de l'intérêt général. L'arbitraire et la corruption fragilisent, prennent en otage, voire détruisent l'état de droit. Il est des libertés fondamentales, donc chaque citoyen doit pouvoir jouir et que l'état de droit lui garantit. Et donc finalement, dans un état de droit, l'exercice de la puissance publique est en fait conditionné par le respect de ces règles et garanties, y compris pour les personnes privées de liberté. C'est-à-dire que même les présumés auteurs d'infractions ou de crimes, mais aussi les détenus, ont des droits et la puissance publique doit respecter ces droits et garanties de procédure.
Quelle contradiction entre la théorie et la pratique de l'état de droit en RDC, selon vous ?
Bien, tout au long de l'histoire politique congolaise, il y a eu et il continue d'y avoir beaucoup de promesses de soit rétablir ou de consolider ou protéger l'état de droit. C'est pratiquement un slogan politique qui s'entend régulièrement. Mais l'absence de réformes systémiques fait que l'arbitraire reste encore très répandu. Les institutions ne gagnent pas en solidité pour affirmer l'autorité de l'État avec le même traitement pour tous, selon le principe de la légalité. Et il y a même des régions où l'État reste totalement absent et la justice a du mal à s'y affirmer avec son indépendance vis-à-vis du politique ou de l'affairisme. Et donc l'impunité persiste à tel point que les crimes restés impunis sont légions. Encore aujourd'hui, entre les promesses et la réalité, il y a des différences et le respect des droits passe souvent à la trappe. Rien que cette semaine, plus d'une dizaine d'activistes du mouvement citoyen Lucha ont été arrêtés et placés en détention pour avoir manifesté pacifiquement à Goma contre le processus électoral. Il faut voir les images, ils n'étaient même pas 20 à marcher en file indienne avec des pancartes faites à la main pour leurs revendications. Donc ces arrestations et détentions sont une attaque contre leur droit de manifester pacifiquement, une liberté fondamentale. Et d'ailleurs, l'état de siège a permis aux militaires au pouvoir au Nord-Kivu comme en Ituri de réprimer sévèrement les rassemblements et les manifestations et de réduire les libertés fondamentales. Nous venons de publier un communiqué cette semaine démontrant comment l'opposition politique a été ciblée depuis le mois de mai, soulevant des inquiétudes quant au caractère partisan ou politique de certaines arrestations ou décisions d'interdire telle ou telle manifestation. Moïse Katumbi, par exemple, n'a pas pu réaliser sa tournée dans le Congo central. Les autorités lui ont demandé d'en faire une activité d'un jour dans un seul lieu à la place. Deux jours plus tard, encore Moïse Katumbi, mais aussi Martin Fayulu, Deli Sesanga et Matata Ponyo, tous leaders de l'opposition et candidats déclarés à la présidentielle, sont empêchés de rejoindre le devant de la CENI pour y faire un sit-in avec leurs militants à propos du processus électoral. Il y a en ce moment un climat de tension politique préélectorale qui ne respire pas l'apaisement et la sérénité. Les Nations Unies, par exemple, parlent d'un environnement préélectoral de plus en plus caractérisé par un rétrécissement de l'espace civique et des violences politiques et électorales, des arrestations et détentions arbitraires, des enlèvements, des menaces ciblant l'opposition politique. Ils parlent d'un usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques, et des discours de haine et d'incitation à la violence. Donc, et ce climat a d'ailleurs un impact sur le travail des journalistes, qui sont également ciblés par des militants de partis politiques ou les forces de sécurité, alors qu'ils couvrent les rassemblements des partis politiques. Ce sont aussi des atteintes à la liberté de la presse, autre symptôme d'un état de droit en péril. À l'est du pays, les crimes graves et exactions répertoriés depuis 3 décennies reste largement impuni. D'innombrables victimes attendent toujours justice. Cette impunité continue d'alimenter la violence qui ne cesse d'accroître. La justice s'est occupée de certains dossiers, certes, il faut dire d'ailleurs de plus en plus de dossiers sont traités, mais cela reste encore trop peu quand on voit la somme des crimes commis. les magistrats, de leur côté, n'ont pas forcément les moyens de leur travail aussi, ce qui rend les enquêtes compliquées, laborieuses, et ça rend le système propice à l'interférence et la corruption. La liste est longue, mais pour terminer, je dirais que les problèmes de gouvernance qui ne respectent pas le principe de la légalité se retrouvent dans bien des secteurs de la vie du pays, le secteur de la justice, le secteur économique en pâtit beaucoup, le secteur environnemental et minier, le secteur militaire, etc., etc.
Suivons à présent la réaction de la Commission nationale du droit de l'homme avec son président Paul Nsapu, répond aux questions de Jeff Ngoy.
Je vous reçois dans le cadre de l'émission Droit et citoyenneté qui se penche sur l'état des droits et ses exigences. Paul Nsapu, vous êtes le président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Human Rights Watch vient de publier un communiqué qui dénonce la répression violente des opposants. Pouvons-nous dire que nous sommes dans un état de droit en marche ou bien en recul à la suite de tout ce que nous apprenons?
Eh bien, merci beaucoup, mais une remarque. La CNDH n'est pas une organisation non gouvernementale de la société civile nationale ou internationale. C'est une institution d'appui à la démocratie, une institution publique. Alors, le document dont vous parlez, on l'a vu probablement dans des réseaux sociaux. Nous attendons que l'organisation Human Rights Watch nous envoie, nous dépose ces documents de façon officielle. Alors là, nous allons examiner le contenu de ces communiqués et s'il y a un rapport là-dessus, nous allons également l'analyser et donner notre position en tant que CNDH, en tant que Commission nationale des droits de l'homme. Alors, quand on parle
de l'état des droits,
oui, mais je crois
ça n'a rien à voir avec Human Rights.
Nous, notre
au vu de ce que nous
tout à fait au vu de ce que nous vivons, vous m'avez vu aller vers ces opposants-là qui sont arrêtés, allaient même lorsque nous sommes saisis, nous nous déployons pour regarder, examiner la situation. Malheureusement, les opposants savent très bien qu'il y a une CNDH et dirigée par M. Paul Nsapu pour constater que leurs droits de défense ou quoi, leurs conditions de privation des libertés sont conformes aux normes acceptables. Alors, maintenant, il faut que les opposants s'adressent à la CNDH.
Et lorsqu'un opposant est arrêté, détenu au cachot clandestin, au secret, comment est-ce qu'il va vous saisir puisqu'il est enlevé, détenu?
Mais cette personne-là, nous pouvons la retracer dans le cadre de nos visites de tous ces endroits d'enfermement.
Accédez-vous à l'ANER, au cachot de l'ANER,
partout là, et à la DEMIA. Partout là, indépendamment du pouvoir en place, indépendamment du gouvernement, indépendamment de courants qui peuvent être des courants politiques qui gèrent le pays à travers leurs représentants. Vous nous avez vus à Ndolo, à Makala, voir Salomon, voir Mwanga Chuchu, voir Jean-Marc Kabound et tous les autres, Mike Mukebayi, etc. Et donc ça, c'est le travail de la CNDH et nous le faisons indépendamment en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Alors, nous recevons de plaintes.
Vous avez reçu le rapport des ONG des droits de l'homme, notamment la CAGE, la Voix des Sans-Voix, l'IRDH.
Oui.
Ces ONG vous ont remis un rapport,
oui,
sur l'existence des cachots clandestins.
Eh bien.
Des tortures.
Eh bien.
Des détentions illégales et arbitraires.
Eh bien.
Qu'est-ce que la CNDH en fait?
Oui, la CNDH, diligente de mission, d'enquête et de visite de tous ces endroits-là, et nous allons faire un rapport à qui de droit, y compris aussi des rapports à tous ces opposants, entre guillemets, qui nous ont adressé des plaintes. Il y en a qui continuent à nous déposer des plaintes. Là, c'est du secret, si vous voulez. C'est un secret pour la CNDH qui examine en son sein toutes ces plaintes et avec recommandations de notre part, des actions amenées par nos avocats, nos spécialistes, nos experts. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc, pour revenir au communiqué de Human Rights Watch, nous attendons que ces organisations internationales nous déposent leur rapport. Voilà.
Et votre point de vue en tant que défenseur des droits de l'homme sur l'état des droits?
Écoutez, ça c'est un autre...
Tu l'en marches ou bien avec qui?
Mais écoutez, vous pouvez voir, chacun peut voir un verre plein, à moitié plein. D'autres voient qu'il n'y a rien. Mais on laisse cette question-là à chacun d'apprécier. Mais pour nous, lorsque nous sommes saisis et lorsque nous agissons, on libère carrément et simplement. Lorsque Peter Tiani avait été pris, vous voyez, nous avons agi sans faire beaucoup de publicité et il a été libéré.
L'état des droits est là.
Ben, écoutez, l'état des droits s'est vérifié par rapport à une situation sécuritaire telle que on la connaît à l'Est, un peu partout. L'État doit faire son travail, vérifier s'il y a des soupçons. Mais lorsque nous sommes au courant, nous allons voir si les droits de la défense sont respectés par rapport, indépendamment du contenu, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport aux questions de sûreté nationale, par rapport aux questions de souveraineté nationale.
Corneli Malongo, troisième œil, manager international. Paul Chilombo, Montema Yalina Mofaro, Yoka. Jean-Cy Mayas, Forza Italia, Yoka.
Moto ya felo ya bolingo nini oyo elingie boma binza nanga yoyo Tripoli e pole moto oyo asala na yo poli e fidele dote ukozo tika matama nanga kanga na pinzoli Tripoli na eba na ya osie moto ya nani ya sika kanga na zolela
C'est profane, na wili opelela, Dieu donné au lela.
Lukanga inanga mbwa bomengo note, lukanga nanga mbwa bolingo dode. Ma papu yange mboye zalakana masala teo, mitema ya bato solanda, eza na bolingo teo.
Tala bango nanga mbwa bomengo na yo,
soki sukali ya manga esili, banzinzi ba palangani.
Ulingo na yeza kata mote mananga General Dodo Luyoyo President Marc et Avigné Colonel Tsomba
Na bele li dode Ozali wapie Mote maya moninga Ezali konyo
koma
Na kote ma dode Fali ya mote maya Yeba minantembo Watrike tamba Ona nini olingi Obwaka kaevo bimba Dode
PDG Eric Mandala, Frank Malanda, Horizon Mansamba na Amadou Diaby na Conakry.
Ah, mama yona yoka bolingo, ezali matata mingi.
Esanga bolingo, enole bolingo, toke mama siliko. No,
Maxime Zita,
oh petit nanga zamba peta lindanda ekina arichana basepela Albert Lumbila nana omeyaka na nansi tomo
kasi yo okobi motema pete okabi bolingo yango nazolelawa enga ye nakoya kokatwa mpamba juda mpaka angali oyo alela motema Abifa, to defesa motema, kobo yanga fasi misi.
Fasi kie, kote boulay, le pasko linda, koko gomi.
État des droits et ses exigences, ses contradictions. Nous en parlons dans Droit et citoyenneté, une émission pédagogique qui reçoit Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille. Qu'est-ce qu'on entend par un état des droits et quelles sont ses caractéristiques?
Bon, pour parler d'un état des droits, il faut trois conditions cumulatives qui sont exigées afin de pouvoir apprécier si un État est dit État de droit ou il est dit dictatorial, parce que l'inverse c'est un État dictatorial. Parmi ces trois conditions, il y a la première condition de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est une notion qui considère que il y a une norme supérieure ou suprême que l'on appelle la Constitution, et puis vous avez des lois inférieures à la Constitution, et toutes ces lois inférieures doivent être conformes à la loi mère qui est la Constitution. Donc c'est un pays où on doit avoir une constitution. Il ne faut pas seulement la avoir, mais il faut la respecter. Première condition. Deuxième condition, c'est qu'il y ait égalité de tous devant la loi. Tout le monde, comme l'article 12 de notre constitution le dit, on est tous égaux devant la loi. Et troisième condition, c'est un pays qui doit respecter la séparation des pouvoirs. Comme vous le savez, avec la théorie chère de Montesquieu, les pouvoirs d'État se divisent en exécutif, législatif et judiciaire. Et aussi, vous, on vous appelle quatrième pouvoir.
Et donc, ne s'exerce pouvoir... pas du tout. C'est en théorie.
Bon, même tout ça, c'est théorique parce que quand vous dites séparation de pouvoir, cher à Montesquieu, il peut arriver que dans le passé, nous avons connu ça, où vous avez le Parlement qui devient une caisse de résonance, et à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a séparation de pouvoir. Et donc, nous avons connu ça dans le passé, et aujourd'hui, nous sommes heureux que l'État des droits soit en marche. C'est pour ça que j'ai mis en place une ONG qui s'appelle État des droits en marche. Et donc, je vous réponds essentiellement avec ma casquette de coordinateur de la SBL, État des droits en marche. Et je considère que depuis 2018, avec l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, l'État des droits est en marche, qu'il faille l'accompagner. Et comme toute naissance, il y a l'accouchement douloureux Et puis l'enfant doit apprendre à marcher en titubant et puis après il se mettra à courir. Et en tout ce processus-là, cela nécessite un accompagnement.
Cela tombe à pic et vous êtes à la tête d'une ASBL dénommée l'état de droit en marche. Contrairement à ceux qui pensent que l'état de droit est en recul, que pensez-vous à ceux qui disent que l'état de droit connaît plus de recul que d'être en marche?
Bon, écoutez, nous avons été habitués dans notre pays de pouvoir se tromper de terrain en transformant les terrains politiques sur les terrains des droits de l'homme et de dire que, bon, il n'y a pas état de droit à partir du moment que l'on a besoin d'accéder au pouvoir et comme on n'a pas de programme, on passe et on se réfugie derrière violation des droits de l'homme pour être audible au sein de la population locale, donc au plan national et aussi au plan international parce que vous savez que les Occidentaux sont attachés aux valeurs des droits de l'homme et qu'il est trop facile de commencer à accuser le pouvoir en place pour dire qu'il y a violation des droits de l'homme. Et donc, nous sommes une ONG qui se veut indépendante et qui apprécie les choses en toute objectivité. Nous considérons que depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, il y a une grande évolution, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des bavures comme on peut en observer partout au monde. Mais aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a le Parlement qui s'exprime. Il y a la justice qui est en marche.
Hier, une justice à double vitesse, pense-t-on?
Non, mais une justice à double vitesse, hier, oui. Hier, elle était en double vitesse parce qu'il y avait des intouchables. Et vous avez un musicien congolais qui a dit « L'enfant du chef ne peut pas aller en prison. » Hein, ce qu'on peut traduire en lingala, ça on en a connu dans le passé. Mais avec Tshisekedi, aujourd'hui, pas d'intouchable. Et vous avez vu ses proches en train d'être interpellés, en train de se retrouver devant les barreaux. Et donc aujourd'hui, ça, c'est à l'actif de ce régime. Qui marque d'ailleurs, comme la Constitution l'exige, la rupture avec les passés. Les passés, c'était la dictature. Aujourd'hui, c'est l'état des droits. Et quand vous prenez la Constitution, dans l'exposé des motifs, à son article 6, l'objectif de notre Constitution a été de lutter contre l'impunité. Et qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi lutte contre l'impunité, même s'il a de regrets par rapport au fonctionnement de notre justice. Mais ça, chacun doit être dans son rôle, dans ce qu'on a appelé séparation des pouvoirs. Le président de la République fixe les caps et fixe la politique. Et cette politique doit être appliquée en ce qui concerne la justice par les autorités judiciaires.
Je vais vous prendre au mot. Le chef d'État lui-même, il a relevé le bémol sur la manière dont notre justice est administrée. Les professionnels eux-mêmes de la loi, les magistrats, lorsque j'échange avec eux, ils regrettent. Alors que c'est une justice qui doit élever la nation. Mais ici chez nous, la justice est en train d'abaisser la nation. Pensez-vous qu'il est en tout cas plausible de parler d'un état de droit en marche dans un pays où on arrête des gens avant d'avoir les preuves, on les amène en détention, une détention préventive ou une garde à vue prolongée. Quelques jours après ou bien quelques semaines après, on les retrouve en liberté pour dire qu'il n'y a pas de preuves de leur culpabilité. C'est une justice qui fonctionne normalement, selon vous?
Alors, trois observations. La première et la plus essentielle, quand le chef de l'État se plaint, s'est déclaré déçu du fonctionnement de la justice, il est dans son rôle. Mais ce qu'il faut maintenant condamner ou exclure, c'est que les gens puissent emprunter comme exemple ou preuve de l'échec d'un état de droit les propos du chef de l'État qu'ils sortent de leur contexte. Quand vous prenez l'article 149 de notre Constitution, il est dit que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la République. Nous constatons effectivement qu'il y a un divorce. La justice, notre justice ne ressemble plus à ce que notre peuple veut parce que notre peuple ne se retrouve pas et non plus, et n'est plus exécutée selon la volonté, n'est-ce pas, comme le Constitution le veut. Et le nom du chef de l'État ne peut pas être associé à ces décisions judiciaires dites uniques. Et donc, à partir de là, le chef de l'État s'en est plaint, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que de là dire que l'État de droit n'existe pas?
C'est lui le magistrat suprême.
Ben, le magistrat suprême en vertu de séparation de pouvoir peut se plaindre qu'il y a un organe qui ne fonctionne pas. Lui, il n'est pas Dieu qui fait tout. Lui, il est exécutif, il a dit « je veux que vous arrêtiez les gens, je veux qu'il y ait impunité zéro ». Mais maintenant, il y a un autre pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Et le chef de l'État, au regard de l'article 169, qui est le garant du bon fonctionnement de la justice, il est tout à fait normal qu'il puisse constater qu'il y a un organe qui ne fonctionne pas bien. Est-ce que maintenant, de là, il a fait l'aveu de l'échec? La réponse est non. Il vous a dit qu'il va mettre en place des réformes. Et nous sommes là pour accompagner. C'est ça le rôle de notre association, être une ONG de proposition et non pas être une ONG comme on en a connu dans le passé, de décrier, de condamner sans amener des propositions. Voilà un peu par rapport à ça, par rapport aux gens qui entrent en ce que vous avez appelé détention préventive et garde à vue, ben c'est tout à fait normal, sauf qu'il n'y a pas de la pédagogie. C'est pour ça qu'on vous remercie d'être venu nous voir et nous faisons de la pédagogie. Quand quelqu'un est en garde à vue ou en détention préventive, il n'est pas condamné. Et quand on est en garde à vue comme en détention préventive, c'est pour besoin d'enquête. Et l'enquête peut conclure à ce que les faits sont établis ou alors à que les faits ne sont pas établis. Et donc quand les faits ne sont pas établis, votre garde à vue ou votre détention prend fin. C'est pour ça qu'on parle du principe de présomption d'innocence. Mais nous sommes dans un pays où la culture est que une fois qu'on vous a dénoncé, qu'on vous a pointé du doigt, et le peuple veut que vous soyez condamné. Et donc, à ce moment-là, nous devons aussi demander à ce que notre justice soit indépendante, parce que l'indépendance ne doit pas être seulement à l'égard des pouvoirs politiques, à l'égard des puissances financières, mais doit être aussi à l'égard de l'opinion publique.
Partant du principe selon lequel la détention est l'exception et la liberté est la règle,
oui.
Pourquoi doit-on se précipiter de détenir quelqu'un au moment où on n'a pas encore de preuves et on le présente devant le public, devant l'opinion publique, comme criminel?
Non, je ne pense pas qu'on soit dans la précipitation. À ce moment-là, vous êtes dans, au cas par cas. Mais nous devons faire respecter les principes. Et aujourd'hui, nous saluons qu'à la tête de notre Conseil supérieur de la magistrature soit un président, parce qu'on est président du Conseil supérieur de la magistrature, en même temps président de la Cour constitutionnelle. Et nous saluons l'avènement de M. Kamuleta à la tête de la Cour constitutionnelle comme le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu des faiblesses, des imperfections, mais il y a eu des réformes. Le chef de l'État a fait confiance au président de la Cour constitutionnelle actuelle, qui est en train d'apporter des preuves qu'il va remettre les choses sur les rails. En commençant, vous l'avez constaté, le procès Matata a repris. L'arrêt Kalouba nous avait mis dans l'impasse et aujourd'hui, avec l'arrêt Kamuleta, l'état de droit, la justice est revenu sur les rails. Et il faut donner du temps. Il va apporter des réformes, il va corriger. Et donc, l'état de droit, à chaque fois, on doit pouvoir marcher. Et nous sommes dans un monde, nous ne sommes pas sur le paradis. Nous sommes dans un monde des hommes et des femmes. Et en France, vous avez un magistrat qui a dit, ne faites pas confiance à la justice de votre pays. Est-ce pour autant on a dit que la France n'est pas un état de droit? Donc, il y a des bévues. Mais l'essentiel, ce n'est pas de plonger vers l'hécatombe, mais c'est d'apporter des réformes. Et nous proposons des réformes. Par exemple, nous demandons aujourd'hui qu'il y ait renforcement de pouvoir, de contrôle, que l'inspectorat général des services judiciaires, qui a le pouvoir de contrôle, puisse voir ce pouvoir renforcé. Nous demandons également que vous, la presse, vous puissiez utiliser de votre pouvoir, parce que quand vous dites qu'on envoie les gens comme criminels alors qu'ils ne sont pas encore condamnés, mais c'est vous la presse. C'est vous la presse. À peine que quelqu'un a eu une convocation, on a ça dans les réseaux sociaux. On vous a déjà invité par la personne qui commence, alors qu'il, au lieu d'aller se défendre devant la justice, commence à se défendre à la presse. Et on voit les gens, par ailleurs, qui sont des professeurs, qui vous disent que maintenant, quand vous recevez une convocation, vous devez refuser, c'est un ordre manifestement illégal. Comment un citoyen peut apprécier d'un ordre? Vous voyez, il ne faut pas confondre la démocratie, l'état des droits en libertinage. Voilà ce que je peux, à ce stade, vous dire.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
État de droit et ses exigences, ses contradictions, état de droit en marche ou en recul. Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille en France, pouvez-vous nous dire si réellement notre constitution, puisque vous avez parlé de, parmi les conditions, le respect de la constitution, est-ce que notre constitution, elle est vraiment respectée? Pas plus tard qu'avant-hier, des professeurs d'université disent qu'il faut changer cette constitution, c'est du chiffon.
Oui, mais comme je suis d'avis avec ces professeurs, et comme vous le savez, vous êtes mieux informés, c'est depuis 2009 que nous avons commencé commencer en premier à appeler à la sortie et disent il faut réviser, il faut modifier. Non, moi j'en appelle au changement de cette constitution, donc au changement du régime pour sortir de la 3e République et entrer dans la 4e République. C'est pour ça que j'invite aux candidats aux élections présidentielles d'inscrire dans leur programme, pour ceux qui partagent mes valeurs, d'inscrire dans leur programme le changement de la constitution et le changement de régime pour entrer en 4e République. Comme ça, nous serons sortis de toutes les contradictions de la constitution, qui a été une constitution pas écrite au Congo, mais ailleurs, pour entrer dans la prophétie de Lumumba, que nous voulons des constitutions qui ne seront écrites ni à Paris, ni à Bruxelles, ni aux États-Unis, à Washington, mais à Kinshasa, et non pas à Sand City, avec les belligérants qui nous ont amené effectivement cette constitution que nous appelons chiffon. Mais en même temps, il ne faut pas s'attendre que on aura des lois qui soient merveilleuses et pour autant tout ira au mieux. Ce n'est pas la loi qui fait partir les choses, ce sont les hommes et femmes. C'est pour ça en institution on parle de équation personnelle. Vous avez beau à voter de bonnes lois, mais quand vous avez des hommes et des femmes qui n'ont pas de valeur de respect de la loi, ça n'ira pas de l'avant.
Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette constitution?
Beaucoup de choses. La première et la plus essentielle, c'est que cette constitution a vendu notre pays et on nous a trahis. A vendu notre pays et on nous a trahis. Dans la mesure où vous prenez l'article 9, de tout ce temps, on a toujours dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. La loi dite Bakajika. C'est ça notre tradition constitutionnelle. Mais avec cette constitution, à l'article 9, on a dit que, au lieu de dire le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais on a dit que l'État exerce sa souveraineté sur
le sol.
Sur le sol. Or, la souveraineté peut se perdre, mais le droit de propriété ne se perd pas, sauf à certaines conditions légales. Mais on ne peut pas perdre son droit de propriété par force. Donc, on ne peut pas venir de force nous ravir notre terrain. On peut arriver à le faire par force, mais nous n'aurons pas perdu notre droit de propriété parce qu'un jour, nous-mêmes, nos enfants, nos arrière-enfants, petits-fils et petites-filles, pourront un jour redevenir forts et récupérer le sol de leurs ancêtres. Mais si vous dites que ce n'est plus la propriété, que c'est la souveraineté, une souveraineté peut se perdre par force. L'exemple de le village là, Bukangana et consorts, à l'est, quand les rebelles et notre pays agresseur, en ce moment-là, nous saluons également les chefs de l'État. Là-dessus, quand j'en parle comme ça, on me dit, mais il est le support des chefs. Non, non, nous devons saluer ce qui est bon. Il a eu le courage, la force de désigner notre agresseur qui est connu aujourd'hui, qui est le Rwanda. Et donc, tout enfant congolais et congolaise qui marche doit savoir que nous avons un ennemi qui s'appelle le Rwanda, en espèce Kagame, pour ne pas confondre le conflit entre peuples. Et donc, nous avons l'obligation de les bouter dehors. Mais vous comprenez que par force, on peut nous ravir un territoire. À ce moment-là, nous perdons la souveraineté parce qu'il n'y a plus la police dans certains villages de l'Est. Est-ce qu'il y a la souveraineté là-bas où il n'y a pas la police? Non. Donc nous avons perdu la souveraineté. Mais est-ce que quand on perd la souveraineté, on perd le territoire? La réponse est non. Donc, la réponse est non. Et donc, à partir de là, nous disons que on ne peut pas être dans une logique à l'article 9 que l'État exerce sa souveraineté. Nous devons, avec la 4e République, dire l'État est propriétaire des sols et des sous-sols. Voilà un peu pour vous prendre cet exemple-là. Et puis après, vous avez la discussion actuelle, état de siège ou pas. Mais la Constitution ne prévoit pas autre alternative que quand il y a des circonstances comme les nôtres, que faire l'état de siège. Si vous voulez qu'on sorte de l'état de siège, alors à ce moment-là, on passe à une étape supérieure qui n'est que la déclaration de guerre. Sommes-nous pour la guerre? Je pense que nous ne sommes pas prêts. Et je crois que le chef de l'État ne doit pas se laisser aller. Et je crois que c'est un conseil qu'on donne. Nous sommes dans ce rôle. Il ne peut pas se laisser emporter par la pression pour sortir de l'état de siège. Je crois que ça sera faire une fausse route. Parce que quand on quitte l'état de siège, on passe à la guerre. Et donc, en dehors de ça, vous avez la polémique qu'il y a eu. L'article 119 pour proclamer l'état d'urgence, il faut qu'il y ait le congrès. Non, c'est une mauvaise rédaction de la Constitution. Pour proclamer l'état d'urgence, on n'a pas besoin de faire le congrès. Et donc, à ce point de vue-là, M. Tambo Mwamba avait eu tort de penser que le président de la République avait violé la Constitution. Et au contraire, c'est lui, Tambo Mwamba, et Mabunda qui ont violé la Constitution en ne convoquant pas les chambres pour pouvoir mettre en place les lois qui devraient accompagner les mesures qui avaient été prises, les mesures sanitaires et salutaires qui avaient été prises par les chefs d'État pour nous protéger contre Covid.
Il y a Human Rights Watch, une organisation internationale de défense des droits de l'homme qui dénonce la répression sévère des opposants à la veille des élections. Les opposants ne sont plus libres de s'exprimer ni de circuler. Il y a Moïse Katumbi qui a été empêché de se mouvoir dans le Congo central. Il y a Frank Diongo qui a été arrêté avant d'être détenu à la DEMIAP, transféré à la prison militaire d'Indolo avant d'être mis en liberté provisoire. Salomon Kalonda, arrêté et détenu à la prison militaire d'Indolo. Beaucoup d'exemples. Les manifestations publiques qui ont été réprimées, parfois même interdites. N'est-ce pas là les corollaires d'un état de droit en recul?
Non, pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Alors, je vous renvoie à des choses si simples. Il y a François Fillon, à un doigt de devenir président de la République, Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui Donald Trump. Ça sont des politiques et des opposants. Est-ce que nous avons l'ONG dont vous m'avez parlé, est-ce que nous en avons aux États-Unis, en France, pour dire que l'État est en recul? Vous avez l'ONG qui vient vous dire qu'il y a des manifestations qui sont réprimées. Nous avons des manifestations réprimées, mais les manifestations qui sont réprimées, moi je suis avocat en France. Quand il y a le mouvement Gilets jaunes, les gars, les amigos de la police sont en surpopulation, les gardes à vue, nous sommes débordés parce qu'il y a beaucoup de gardes à vue. Est-ce que pour autant on dit qu'il n'y a pas... On va dire qu'en France il y a les droits de l'homme en recul. Quand on tue les Noirs aux États-Unis, en France, vous avez suivi les émeutes. Où est-ce que nous avons vu? Pourquoi ces ONG-là ne vont pas en France, aux États-Unis? Ils viennent chez les Africains. C'est parce que les Africains, nous sommes encore, comme hier, pendant la colonisation, nous sommes encore malheureusement aveugles. On peut nous tromper. Nous sommes un peuple qu'on trompe facilement. Et on va vous dire qu'il n'y a pas de droits de l'homme pour changer les régimes. Et comme l'esclave, chaque fois, il veut changer les maîtres. Et là, je m'insurge contre nos amis avocats belges qu'on a vu comme avocats de Kalonda, qui ne sont pas avocats parce qu'ils sont des politiciens. Ils ont dit qu'ils remettaient en cause la légitimité de l'élection de Tshisekedi. Voyez-vous un avocat congolais qui va aller en Belgique pour remettre en cause la légitimité des choses? C'est pour ça que nous disons que, parce que nous venons de là et nous sommes d'ici, nous avons double expérience et nous pouvons parler à ces petits blancs d'égal à égal. Donc l'exemple que vous me donnez, je souhaite qu'on nous accepte comme état de droit en marche d'aller aux États-Unis facilement en nous donnant des visas pour que nous ayons contrôlé les cachots américains. Et à partir de là, nous ferons rapport que l'Amérique n'est pas un état de droit.
J'aimerais corriger votre dénomination de Lasbel pour l'appeler l'état de droit est en train de balbutier.
Mais c'est pour ça que je dis que vous avez peut-être raison de dire que ça balbutie. Mais quand moi je dis en marche, c'est l'enfant. Quand l'enfant a 2 ans, il ne marche pas encore correctement. Ok, balbutie. On l'accompagne pour que, qu'en tombant, il se relève. Et qu'il marche, et qu'il apprenne à courir. C'est ça le droit, l'état de la marche. Mais si vous commencez à dire en recul, ceux qui veulent croire au recul, pour qu'on aille où? En enfer. Nous devons tous nous unir pour qu'on aille de l'avant vers l'état de droit qui est un idéal à atteindre. N'attendez pas qu'on vous amène comme manne du ciel l'état de droit et puis vous vous réveillez, vous dites vous êtes en état de droit. Les pays que vous dites des pays d'état de droit aujourd'hui, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Amérique, jusqu'à en France, la femme n'avait pas droit au vote. En France, la femme n'allait pas à l'école. Ils n'ont pas dit qu'ils ne doivent pas se battre. Les Congolaises et Congolais doivent se battre à travers des associations que nous sommes pour exiger un état de droit. L'état de droit est une exigence. C'est pour ça qu'on vous dit que le peuple a le régime qui lui ressemble. Si nous avons la dictature aujourd'hui, sommes-nous que le peuple? Mais moi, j'ai dit que depuis l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, nous avons connu l'alternance politique pacifique, où nous avons, et l'Afrique nous envie. Et aujourd'hui, nous sommes le seul pays africain où nous avons un ancien président en vie et un nouveau président en exercice. Et la chance de l'histoire est que l'ancien président qui est en vie vient d'un père rebelle. Et le président en exercice vient d'un père démocrate. Combinons les deux leviers pour que nous puissions faire une symbiose qui nous amène à un état de droit. Et c'est pour ça que nous pensons que c'est une chance de l'histoire que nous ayons un ancien président de la République en vie et un président actuel. De leur double expérience, ça pourra sauver le Congo. Et pour cela, nous ne sommes que seul exemple en Afrique. Est-ce que vous pouvez me citer un autre exemple en Afrique? Est-ce que vos associations que vous dites, pourquoi ne partent pas au Rwanda, où on fait encore les élections comme en Russie, à plus de 90% de voix. Et...
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
L'état des droits et ses exigences. Nous recevons les coordonnateurs de l'organisation État des droits en marche et avocat au barreau de Lille en France. Maître Oscar Moubiaï évoque les notions d'un état des droits, ses exigences, ses contradictions et des solutions préconisées.
Un point de vue sur la procédure devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le procès de Bukangalonzo. Pensez-vous que cette procédure elle est respectée avec les poursuites à l'encontre d'un ancien Premier ministre devant la Cour constitutionnelle et ça ne viole pas les règles de droit?
Bon, j'ai été mandaté et envoyé par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH par Paul Sapo, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme, un défenseur des droits de l'homme acharné, connu de tous, opposant comme ceux qui sont au pouvoir, en international comme en national. Il m'a envoyé là-bas pour observer si le procès s'est déroulé régulièrement. Mes conclusions, c'est que le procès s'est déroulé en respect de ce qu'on appelle droits de l'homme. Ça veut dire, en clair, on s'interroge pour savoir si le procès est équitable. Le procès est équitable quand il respecte les droits de la défense. Ça a été respecté. Les droits de la défense, c'est l'accès à l'avocat. Matata a eu ses avocats. Il n'était pas en audience. Et que la Cour a considéré qu'elle n'était pas régulièrement saisie parce qu'un huissier de justice n'avait pas atteint Matata en temps et en l'heure pour préparer sa défense. On a renvoyé l'affaire au 4. Il y a le Sud-Africain qui parle anglais, a eu droit à l'interprète. Et donc, quand on dit procès équitable, ça voudrait dire qu'il y a certains droits qui doivent être respectés. Tous ces droits ont été respectés et nous avons salué, encore une fois, que le président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta, a eu à accéder à la demande des avocats qui se sont plaints de ne pas avoir accès libre au dossier de leurs clients pour préparer la défense. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta, a demandé au greffier, donc au secrétaire de la Cour, de pouvoir immédiatement déposer le dossier entre les mains afin de laisser libre accès au niveau du secrétariat aux avocats pour venir consulter les dossiers et préparer la défense de leurs clients. Donc ça, j'ai conclu en tant qu'expert mandaté à ce procès-là, que ce procès se déroule selon le respect des droits du principe dit de procès équitable, donc ça se déroule régulièrement. Quant à la question liée à la compétence de la Cour, elle sera débattue devant la Cour tranchera, mais la Cour a déjà répondu à cette question par une jurisprudence que le juge compétent pour connaître de poursuites contre l'ancien premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle et que j'ai beaucoup milité pour faire entendre la voix que des droits, évidemment, que M. Kaloba s'était trompé en disant que l'ancien Premier ministre n'était pas poursuivable devant la Cour constitutionnelle, encore moins devant la Cour de cassation. Nous tombions dans quoi? Dans qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être poursuivables et qui ne répondent pas. Il n'y a pas la redevabilité. Et vous m'avez posé la question. Les critères d'un état de droit, c'est que toute personne puisse répondre devant la justice en cas de commission de fraction, sauf à être Dieu, comme l'a dit le professeur Bakandeja.
Nul ne peut prétendre être sans juge.
Voilà.
Sinon, ça va consacrer l'impunité.
Ça a été notre combat et nous sommes satisfaits que le procès aujourd'hui a repris.
Voilà, nous ne voulons pas ouvrir la boîte à Pandore sur cette affaire ici. On va conclure par ce que vous préconisez comme solution face à certaines failles, à certaines épines qu'on rencontre sur le chemin d'un état de droit. Pour qu'il ne puisse pas balbutier, qu'est-ce qu'il faut?
Restaurer la justice. Restaurer la justice. Par restauration de la justice, ce n'est pas inventer de nouvelles lois. il faut appliquer déjà celles qui sont là. Comme en urbanisme, on dit il faut construire sur l'existant. Nous avons des lois, mais il y a la pratique qui a commencé à traverser ces lois. Et aujourd'hui, vous avez par exemple des procès interminables qui ne répondent plus à ce qu'on appelle délai raisonnable. Pourquoi ? Par le fait des avocats qui vont, au lieu de trancher l'affaire, ils vont commencer à faire des manœuvres. Pour cela, il faut limiter les nombres de renvois. Il faut limiter de voies de recours dits dilatoires en créant ce qu'on appelle les filtrages. Il faut renforcer le pouvoir de contrôle au niveau de l'inspecteur général des services judiciaires. Autant qu'on a démarré le moteur de l'IGF pour la patrouille financière, autant qu'on démarre le moteur de l'inspecteur général des services judiciaires pour contrôler les magistrats qui ont énorme pouvoir entre leurs mains. Ils sont capables de vous priver de votre liberté, tout ce qui est plus cher, parce qu'il n'y a pas plus cher que la liberté et la santé. Le magistrat peut vous les priver. Ils peuvent vous prendre tous vos biens. Vous avez construit votre maison, vous allez être... 80% des conflits au Congo, c'est parcellaire. Et aujourd'hui, un magistrat, parce qu'il a été corrompu, il va vous faire perdre toute la sueur de votre vie, de vos fronts, et de tout au long de votre vie. On va vous ravir votre maison dans toute illégalité. Tout ça, c'est le pouvoir des magistrats. Mais ce pouvoir doit être contrôlé. Tout pouvoir qui n'est pas contrôlé devient un abus et on en abuse sérieusement. Donc il faut renforcer le contrôle et évidemment il faut aussi faire le toilettage de nos textes, les rendre lisibles, compréhensibles pour qu'on ne soit pas dans des interprétations divergentes des textes par rapport à leur écriture. Nos textes ont été très mal rédigés.
Voilà.
Et en même temps, il ne faut pas seulement que vous puissiez vous recourir à ce que vous... Je n'ai rien contre les profs, mais ce sont des théoriciens. Ils doivent rester à l'université. Le travail, on l'apprend pas à l'université. Moi, pour devenir avocat, j'ai appris le métier d'avocat à l'école des avocats. Et les journalistes ont une école de journalistes. On ne sort pas de l'IFASIC, on devient journaliste. Non, c'est ça l'erreur. Il faut pratiquer, mais pour pratiquer, il faut que vous soyez soit passant par l'école, soit être encadré. Vous sortez avec les gens qui sont théoriciens, qui n'ont jamais tenu le micro. Il est professeur de l'IFASIC. Ok, là, il apprend les théories, mais qui n'est pas sur la réalité du terrain. Voilà pourquoi il faut allier dans les réformes les professionnels du droit et les scientifiques. Malheureusement au Congo, les mêmes professeurs sont dans les universités et les mêmes sont à la critique des lois qu'ils ont eux-mêmes conçues. Ils ont conçu une loi et eux-mêmes qui ont conçu cette loi-là, vous avez suivi le professeur Nyabirungu, n'est-ce pas ? La théorie qu'il a enseignée est en contradiction avec ce qu'il dit maintenant pour l'intérêt de son client. À ce moment-là, il faut arriver, et je vais adresser un courrier par ailleurs au ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique, pour qu'on ait un code d'intégrité scientifique, pour qu'un scientifique qui est scientifique ne puisse pas donner un avis sous le coup de billets verts et en rendant ce que l'on dit, science sans conscience n'est qu'une ruine.
Et cela met en doute ce qu'on transmet aux étudiants. Et les étudiants se trouvent embarrassés, ils ne savent plus à quel sein se vouer lorsque les scientifiques qui doivent transmettre la science,
sans
la connaissance, amènent la confusion, ils se contredisent eux-mêmes sur un thème.
Ce qui est curieux, c'est que ce sont les mêmes professeurs qui disent ça, qu'on ne sait plus à quel sein se vouer par les étudiants. Mais vous professez les hérésies et qui entre en contradiction avec ce que vous avez enseigné. Et vous dites que les étudiants sont désemparés. Mais commencez par dire ce que la science dit. Donc, vous avez des professeurs qui sont des pyromanes, qui deviennent pompiers, eux qui ont allumé le feu. Non, parce que les professeurs qui disent on ne sait plus à quel sens vous, c'est eux qui disent des mensonges pour défendre les intérêts privés en torpillant la science. C'est pour ça que nous nous sommes mis en lutte, sans leur manquer le respect, pour dire non, ne vous laissez pas aller dans leur mythe. Ils vous mentent. Tenez, jusqu'à la veille de, à peine que l'arrêt Kaloba 1 était rendu, j'ai publié Opinion Libre pour dire que Kaloba a fait faux pas. Aujourd'hui, il a fallu attendre quoi ? Un an pour que les gens commencent à parler, pour se rendre compte. Il nous a fallu beaucoup parler et il nous a fallu presque dire qu'on manquait du respect aux aînés scientifiques pour que finalement on comprenne que, comme je l'ai toujours dit, ouvrons les débats le matin avant que le soleil ne se couche. Vous me donnerez raison. Ce n'est pas que j'ai le monopole du savoir, mais là, devant la science, il y a les évidences.
État des droits et ses exigences, ses contradictions. Nous venons d'en parler dans l'émission de promotion de vos droits et devoirs.
Droit et citoyenneté est donc maintenant terminé. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.